Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-François Fiorina, qui est directeur de Grenoble École de Management, qui a un partenariat avec l'IRIS, autant jouer la transparence, et qui a pour particularité justement de miser sur la géopolitique, de centrer une partie de ses enseignements sur la géopolitique, qui a aussi créé un festival de géopolitique. Est-ce que, pour vous, quelle était la démarche en tant que responsable d'une école de management de mettre une spécialité géopolitique ?
Bonjour. On s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande de la part des entreprises d'avoir des jeunes diplômés qui soient capables de comprendre le monde, capables de définir leur propre grille d'analyse, parce que les situations sont totalement spécifiques, et de se dire, bah, derrière cette analyse, il y a un élément d'aide à la prise de décision, alors que ce soit pour la stratégie, pour la gestion des risques, également dans le management interculturel, et dire, bah, Il y a cette demande, c'est un petit peu diffus, et la demande des entreprises a été de se dire, bah, comment vous pouvez créer quelque chose. Et donc, bon, on s'est dit, on va s'intéresser à la géopolitique. Il y avait également de ma part un intérêt personnel, à la fois par mes lectures, par mon expérience professionnelle, passer un engouement pour cette matière. Et puis, bah, de fil en aiguille, on a pas mal réfléchi, et on s'est dit, bah, oui, effectivement, la géopolitique va devenir la culture générale du monde moderne, et une compétence indispensable pour tout collaborateur d'entreprise, et on va dire aussi bien de l'accueil jusqu'au plus haut niveau, pour comprendre où on va, comprendre ce que l'on est, comprendre les grands enjeux, et puis surtout également se dire que ça va tellement vite, il y a tellement d'évolutions qu'il faut être capable en permanence de s'adapter pour pouvoir prendre des décisions.
Donc en fait, la géopolitique serait un prérequis indispensable à un futur manager, comme la maîtrise de l'anglais ou d'autres domaines. Auparavant, on n'aurait pas pensé cela. Soit on se spécialisait dans le management, soit on se spécialisait dans la géopolitique. Et vous, vous pensez qu'en fait, qu'il n'y a pas de barrière entre les deux et qu'au contraire, la géopolitique fait partie du bagage indispensable à un futur manager.
Tout à fait, au même titre que le leadership ou que le management. Il y a cette capacité à comprendre. Alors c'est pas forcément évident, parce qu'il faut il faut l'organiser, mais c'est non pas forcément prévoir l'avenir, parce que c'est impossible, mais d'anticiper, de définir des scénarios pour pouvoir réagir au plus vite. Et on le voit bien dans les réactions possibles. Ça peut être aussi bien pour de la stratégie, ça peut être pour des risques, avec des risques nouveaux qui sont en train d'apparaître, de nationalisation, d'expropriation, on peut même inclure la cybercriminalité dans ces points, et ça va même jusqu'à des thématiques radicalement nouvelles, comme le fait religieux en entreprise, par exemple. Nous avons des entreprises qui nous interrogent en disant, bah, je suis présent dans le monde entier, j'ai des filiales dans le monde entier, je fais face à des situations de radicalisme religieux venant de différentes religions, et ben, comment dois-je traiter ça? Et derrière, bah, on s'aperçoit que c'est pas une fiche par cœur que l'on va apprendre, c'est une capacité vraiment à analyser tous ces éléments, et pour nous, la géopolitique est vraiment plurisectoriel et se décline dans différents domaines pour pouvoir prendre de bonnes décisions.
Alors donc, c'est pas la capacité à prévoir l'avenir, mais la capacité à s'adapter à des situations nouvelles rapidement pour faire face à ce qui est imprévu ou inconnu.
Vous avez entièrement raison. Oui, c'est ça, parce que le monde va extrêmement vite. Aux éléments géopolitiques, il faut ajouter les dimensions sociales, technologiques et autres. En plus, nous allons envoyer sur le marché, si je peux me permettre cette expression, des étudiants qui vont travailler pendant 40-50 ans. On ne sait pas ce qui va se passer. Et leur grande force sera cette capacité, encore une fois, et j'insiste, cette capacité à comprendre, à prendre du recul et à donner des outils d'aide à la décision.
Alors, on sait que les écoles de, ce qu'on appelait auparavant les écoles de commerce, les écoles de management sont en concurrence les unes avec les autres, une concurrence d'ailleurs saine et qui se passe bien. Grenoble est régulièrement classé au 6e rang national. Vous avez progressé d'ailleurs depuis que vous en avez pris la direction. Est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait cette spécialisation géopolitique de Grenoble est un avantage concurrentiel sur les autres écoles?
Alors, c'est dans notre ADN, et effectivement, c'est un élément d'attraction. Nous avons des étudiants qui nous choisissent. Alors, quand ils nous choisissent, c'est entre différentes écoles de même niveau et de même rang, qui nous choisissent pour la géopolitique, parce que ça les intéresse, parce qu'il y a le festival, parce qu'il y a les associations, parce qu'il y a des cours, parce qu'il y a également le double parcours avec l'IRIS, et sont des éléments qui les attirent et qui font un plus. J'ai oublié également de préciser que Grenoble est une ville très techno et très internationale. L'école, au départ, était orientée sur le management technologique, l'innovation. On s'aperçoit que
C'est une ville d'ingénieurs.
C'est une ville d'ingénieurs. D'ailleurs, c'est la deuxième ville en France en termes d'emploi d'ingénieurs, première ville en France en matière de métier de R&D. Et on s'aperçoit que finalement, la géopolitique est dans le prolongement de ce positionnement. Quand on parle géopolitique à Grenoble avec des centres de recherche, avec des experts, avec des grandes entreprises, et même avec des start-up, on s'aperçoit qu'il y a un vrai intérêt et une vraie prise de conscience de cette réalité.
Alors, comment s'organise l'enseignement ou la familiarisation avec la géopolitique dans votre école ? Est-ce qu'il y a des cours ? Vous avez parlé du festival tout à l'heure, on pourra y revenir. Est-ce que c'est en termes d'enseignement ? Donc, vous avez également évoqué les associations et le festival. Est-ce que vous pouvez faire une rapide description de cet ensemble ?
D'accord. Alors, ma philosophie en matière de formation est la suivante. Donc, tout étudiant doit avoir une culture générale et un bagage. Et puis ensuite, il peut aller le plus loin possible dans ses spécialisations. Et donc, la géopolitique en est un parfait exemple. Les étudiants ont un tronc commun, un module obligatoire de géopolitique en première année et en troisième année, et qui est dédié à l'analyse géopolitique et à l'aide à la prise de décision, qui sont importants. Ensuite, ils peuvent choisir des électifs en deuxième et troisième année pour ceux qui souhaiteraient se spécialiser ou découvrir quelque chose.
Des électifs, c'est des options.
C'est des options, c'est des modules au choix. Ça peut être géopolitique de l'énergie, du pétrole, du développement durable. Enfin, ce sont vraiment des différents éléments d'application. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, aller un petit peu plus loin au travers des associations. On a une association humanitaire qui fait des missions dans des pays un petit peu à risque, et donc nous les formons avant leur départ pour éviter toute gaffe et être sûr que ça se passe bien. Et puis vraiment, on va dire, pour les fans des fans, ceux qui souhaitent faire de la géopolitique leur métier ou un axe principal, on leur offre le choix entre deux doubles cursus, les premiers à l'IRIS, et puis on a également un double diplôme avec l'Institut Bioforce pour ceux qui souhaiteraient faire du management d'ONG. Donc vous voyez, c'est entièrement progressif. Tout étudiant, de toute façon, a les mêmes bases. Et puis, en fonction des parcours et des projets, chacun peut aller, encore une fois, jusqu'au bout de ses passions.
D'accord. Donc, une base générale et des spécialisations possibles.
Oui, tout à fait.
Et le festival géopolitique que vous venez, que vous avez organisé mars, et donc qui a été un succès public important.
Alors, grand succès pour cette 10e édition. Là aussi, quand on a lancé la géopolitique, on s'est dit, faut peut-être une manifestation grand public. Nous voulons également, de par notre stratégie, être une école ouverte sur la société et sur la ville. Et donc, on a créé ce festival qui est le lieu d'expression de toutes les géopolitiques, pour tous les publics et par tous les moyens. Et quand vous évoquiez tout à l'heure les associations, les associations sont partie prenante, les associations étudiantes sont partie prenante de ce festival. Certaines participent et animent des débats. D'autres filment l'intégralité des conférences pour les diffuser en direct sur le net et ensuite les mettre en vidéo. On a une association du jeu qui fait un festival du jeu géopolitique, une association de développement durable qui fait quelques animations, une association qui gère la salle de marché qui fait des simulations de grandes crises financières internationales. Voilà. Donc c'est vraiment un lieu pendant 3 jours et demi avec à peu près chaque fois plus d'une centaine de conférences ou d'événements qui permettent de débattre d'un thème. Et cette année, donc, nous avions choisi les États-Unis et de se dire, est-ce que le 21e siècle sera américain ?
Jean-Michel Blanquer a décidé, parmi les réformes qu'il met en œuvre, d'introduire une dimension géopolitique en terminale. Est-ce que ça vous paraît un peu dans l'esprit de ce que vous voulez faire à Grenoble ?
Tout à fait. Mmh. On est vraiment dans de la transversalité. Et c'est comment ? Frappant de temps en temps aussi de se dire, la géopolitique rejoint l'école du futur, parce que cette école du futur, elle sera transversale. Elle nécessitera de prendre des décisions, elle nécessitera de faire des recherches. Et donc, je trouve que c'est une très bonne chose, dès la terminale, de commencer à sensibiliser les étudiants et de se dire, au lieu d'être monobloc et dans une matière, vous avez un module qui est transversal et qui vous permet de mieux comprendre le monde dans lequel vous allez être et de bien prendre position.
Alors vous, dans votre rôle de pédagogue, parce que vous êtes le directeur de l'école, mais vous avez aussi un regard, bien sûr, sur la pédagogie, comment accoutumer des jeunes à la géopolitique ? Est-ce que vous avez le sentiment, sur la longue période, qu'ils arrivent déjà avec un goût assez fort ? Est-ce que vous avez le sentiment que la nouvelle génération est déjà, avant même de choisir Grenoble et d'y recevoir un enseignement, est déjà, de façon générale, sensibilisée au monde extérieur ?
Oui, ils sont de plus en plus curieux et surtout ce qu'ils souhaitent, c'est ils souhaitent comprendre. Hein, et quasiment une bonne intervention de géopolitique, ça serait de prendre un journal et de commenter chacun de ces articles et de dire ben voilà comment ça se passe. Ce qu'ils veulent, c'est comprendre pourquoi on en est arrivé là et quelles en sont les conséquences. Ils sont de plus en plus informés. C'est vrai que j'ai la chance de diriger une belle école avec des étudiants qui sont de plus en plus performants. Donc, ils ont déjà la connaissance. Et ce qui les intéresse et ce qu'ils souhaitent, c'est transformer cette connaissance en compétence.
Comment vous faites la jonction entre la connaissance et la réflexion? Il faut acquérir des connaissances pour pouvoir réfléchir. En même temps, on ne peut pas passer son temps qu'à apprendre sans réfléchir. Comment vous, en tant que formateur, vous essayez de faire une bonne synthèse entre la nécessité d'avoir les prérequis et en même temps ne pas bachoter en permanence?
C'est tout le débat dans les business schools et dans l'ensemble du monde de l'enseignement supérieur. Tout un cycle sur 3 ou 4 ans, c'est multiplier les expérimentations. Alors quand je dis expérimentation, ça peut être sous forme d'alternance, d'année césure, de double diplôme, de stage, de mission en entreprise. C'est multiplier également des études de cas, c'est les faire travailler sur différents cas d'entreprise, les faire réfléchir sur différentes problématiques. Et c'est là également se dire, c'est quelque chose que l'on va faire sur la durée. Hein, c'est pas à l'issue d'un cours, c'est au fur et à mesure, on va réfléchir, on va être sensibilisé, on va comprendre ce qu'il en et puis à la fin il y aura si vous me pardonnez là aussi cette expression, ce produit fini. Le meilleur exemple, c'est un petit peu l'éthique qui peut être une des conséquences de cette géopolitique. On l'a bien vu avec des exemples comme Lafarge.
Oui, vous avez un programme d'études spécifique Lafarge comme cas spécifique de géopolitique appliquée aux entreprises.
Tout à fait. Et c'est de dire c'est comment on en est arrivé là et il doit y avoir de la part de l'étudiant toute une phase de réflexion. Et cette phase de réflexion, c'est ce qu'il a eu en cours, c'est peut-être ce qu'il va voir également au travers de son stage en entreprise, c'est peut-être ce qu'il va voir également dans une mission associative, c'est peut-être ce qu'il va revoir ensuite dans un cours qui sera plutôt transversal, et puis au fur et à mesure, il va nourrir cette réflexion. On a le même problématique avec toute l'intelligence économique et la guerre économique. Enseigner un module d'intelligence économique en première année, les étudiants comprennent pas forcément, ou alors pour eux, ça va être plutôt des barbouzeries, un peu James Bond et autres, et n'en comprennent pas forcément la nécessité. Par contre, une fois qu'ils sont partis en stage chez Thales, chez Airbus, chez Valeo, dans des groupes pharmaceutiques, quand ils reviennent, il n'y a plus besoin de faire du cours. Ils ont compris parce qu'ils ont été immergés et ils ont pu avoir cette expérience qui leur a permis de prendre conscience de tous ces aspects.
Cela fait maintenant 10 ans que vous avez spécialisé votre école dans la géopolitique. Est-ce que vous avez des retours de la première ou des deux premières générations d'étudiants qui ont été formés? Quel poste occupent-ils? Est-ce que vous avez un retour d'expérience de leur part?
Pas encore. On a, nous, des statistiques globales en termes d'insertion, qui est d'ailleurs une des mesures de notre performance, où tous nos étudiants trouvent facilement ou un accès privilégié au marché de l'emploi. On n'a pas encore d'informations très spécifiques sur l'orientation géopolitique. Les contacts qu'on a en direct, bien évidemment, les étudiants nous disent « oui, ça nous sert », mais je crois également que... il faut qu'ils progressent dans l'entreprise.
C'est encore un peu trop tôt
pour voir.
C'est
peut-être aussi un petit peu trop tôt aussi.
Là, ils sont encore à des postes intermédiaires et pas encore aux postes les plus élevés. D'accord.
Et puis pour l'entreprise, et c'est là un petit peu, c'est un peu paradoxal, l'entreprise appuie notre démarche parce qu'il y a cette vraie volonté de comprendre. Et d'autre côté, il y a une difficulté dans l'entreprise à appréhender cette géopolitique. Il n'y a pas forcément de métier spécialisé, ou alors il y en a quelques-uns, mais qui sont ultra spécialisés. C'est du transversal. C'est quelque chose de radicalement nouveau. Bon, donc là aussi, on sait qu'il faut, ça prendra un peu de temps.
Alors, il y a la géopolitique dans l'enseignement supérieur, mais il y a aussi une géopolitique de l'enseignement supérieur. Parce que vous avez, bien comme toutes les écoles de management, des partenariats avec l'étranger. Il y a une concurrence qui est très vive. Comment vous voyez la position de la France dans ce combat à la fois d'attractivité d'étudiants étrangers et de conserver des écoles compétitives et de faire en sorte que les étudiants estiment qu'ils sont bien formés en France et que s'il est nécessaire d'aller à l'étranger pour une expérience, il n'est pas nécessaire de faire l'ensemble de sa formation à l'étranger.
Alors, effectivement, comment on est en plein dans la mondialisation de l'enseignement supérieur. C'est un marché important qui attire et attise beaucoup de convoitises. C'est un marché qui là également extrêmement facile parce que avec Internet, vous allez sur Google, vous tapez Master en Management ou Business School ou Master en géopolitique et en un millième de seconde, vous avez je ne sais combien de millions de propositions. Donc c'est extrêmement facile de trouver une formation, les transports.
C'est de plus en plus difficile de se distinguer.
Alors. Voilà. En plus, très facile maintenant de se déplacer. Le déplacement, le coût du déplacement n'est plus un handicap. Pour les parents, même on s'aperçoit que si son enfant est à l'étranger, avec Skype, on peut peut-être lui parler plus souvent que s'il vit avec nous. C'est beaucoup plus facile. Alors après, comment se distinguer? C'est simple, il y a deux éléments pour se distinguer. Le premier, ce sont les accréditations internationales. Dans notre domaine, les business schools françaises sont extrêmement fortes et bien représentées. Petit clin d'œil montre que on a en France des secteurs d'activité qui peuvent s'inclure dans une bataille mondiale avec des normes qui ne sont pas des normes françaises. Et puis le deuxième élément, ce sont les classements. Nous répondons à beaucoup de classements pour avoir cette visibilité, parce que quand vous avez fait votre recherche sur Internet, les éléments de présélection que vous allez utiliser sont les accréditations, les classements. Ensuite, éventuellement, regarder un petit peu le programme et la ville, mais les deux premiers sont vraiment des critères incontournables. Et dans cette bataille mondiale, on s'aperçoit que l'enjeu pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, et peut-être encore plus pour les business schools, est d'attirer les meilleurs talents. Et donc c'est à coup de bourse, de formation, de campus qui sont ouverts. Nous avons fait le choix d'avoir quelques campus à l'étranger et de nous installer dans des villes qui sont pour nous des hubs, c'est-à-dire des villes reconnues pour leur capacité d'attraction d'étudiants de la zone et qui ensuite matchent avec les critères de Grenoble, c'est-à-dire de la technologie, de l'innovation, des start-up et de la géopolitique. C'est pour ça que nous étions présents à Londres, et Londres est un bon exemple, puisque avec le Brexit, on souffre beaucoup. C'est pour ça que nous avons ouvert à Berlin. Nous sommes également présents à Singapour et à Casablanca, donc dans des zones qui sont stratégiques. Alors, dans cette mondialisation de l'enseignement supérieur, ce que l'on voit apparaître et ce que je crains, moi, de plus en plus, c'est l'apparition des business schools chinoises, un petit peu la même approche que...
Sont-elles un danger, une menace ou un ferment d'inquiétude en tous les cas?
Parce qu'elles deviennent de plus en plus compétitives en termes d'accréditation. Sur une accréditation européenne, c'est la Chine, est le deuxième pays entre la Grande-Bretagne et la France, et donc c'est allé très très vite. Et ce qui est frappant de constater, c'est que le monde de l'enseignement supérieur chinois a la même approche que dans l'industrie. C'est-à-dire, d'abord, ils ont attiré des marques étrangères, ils ont récupéré du savoir-faire. Progressivement, ils ont commencé à mettre des barrières pour limiter donc l'accès des étrangers, commencer à aller à l'étranger. Ils sont en train de monter en gamme, et donc, ce que je dis souvent dans certaines conférences, peut-être que nos enfants ou nos petits-enfants iront étudier dans des business schools chinoises implantées à Paris plutôt que dans des business schools américaines.
Et ils font l'enseignement en anglais, bien sûr.
Et feront enseignement en anglais, en chinois, moitié du temps en Europe, moitié du temps en Asie, et puis avec un accès à un marché donc qui sera particulièrement important.
La France, dans ce domaine-là, dans la compétition de l'enseignement des élites, de l'enseignement supérieur, est-ce que les points forts, c'est les business schools, les écoles d'ingénieurs, et les points plus faibles, l'université? Comment vous voyez la France dans ce paysage de la compétition internationale? Il y a des secteurs, comme vous l'avez dit, elle peut relever avec bonheur le défi de la globalisation. Est-ce qu'il y en a d'autres où elle est un peu plus à la traîne du fait de la langue, des difficultés, des visas, etc.?
Il y a une prise de conscience depuis quelques mois, alors qui a peut-être été accélérée par l'arrivée du président Macron, de l'importance de l'enseignement supérieur comme facteur de soft power. Mais il reste encore beaucoup.
Pourtant, ça fait 20 ans qu'on en parle. Enfin, c'est. Oui, et donc, il n'y avait pas de traduction concrète.
Non, parce que je pense qu'il y avait encore beaucoup d'idéologie. Comment l'éducation n'est pas une marchandise. Enfin bon, comment un certain nombre de débats d'idées. Et, oui. Et pendant ce temps-là, ben, le train est allé très vite.
Et des visas également.
Et derrière. En fait, il faut toute une politique de service. Et cette politique de service, elle commence dès les admissions, même dans certains pays. Je vais un peu caricaturer, mais il fallait quasiment que l'étudiant sache un an à l'avance qu'il allait réussir le concours pour avoir son visa. Il y a ensuite les conditions d'accès, il y a les bourses, il y a eu des améliorations au niveau des contrats de travail, la possibilité de continuer. Donc il y a cette prise de conscience. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout que des pays, on en fait une industrie à part entière. Je parlais de Singapour tout à l'heure. Bon, très bon modèle. Dubaï également, très bon modèle, même s'ils connaissent quelques soucis. Qatar également, un bon modèle uniquement sur de la pure excellence. L'Australie, qui est pour moi le modèle le plus abouti, puisque l'accueil d'étudiants étrangers doit représenter la deuxième ou troisième source à l'exportation et quasiment 4% du PIB.
On y va apprendre l'anglais également.
Ouais. Alors on y va pour apprendre l'anglais. Alors derrière, il y a plein de soucis. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est une. Enfin, comment? Il y a une véritable. C'est à la fois une industrie, parce qu'il y a une redistribution économique, et c'est également un facteur de soft power important, parce que des étudiants qui ont été formés en France, à des méthodes françaises, aux normes françaises, peut supposer que ce sont des tendances ou des formes qu'ils utiliseront par la suite. Et là aussi, pour nous, Français, pendant longtemps, l'international, l'accueil d'étudiants, ça a été. La France est un pays sympa, mais. Dans un passage juste pour les humanités, pour la culture, pour l'histoire, pour l'art de vivre, et pas assez pour tous nos fondamentaux dans lesquels on a plein de points forts, dans l'industrie, dans la médecine, dans la santé, dans les biotechnologies.
Vous avez combien de... Quelle est la proportion d'étudiants étrangers que vous avez à Grenoble ?
On est sur 40% d'étudiants étrangers représentant 125 nationalités.
Oui. Et ça, c'est maintenant un peu la norme des business schools, c'est ça ? Où vous avez quand même une spécialisation plus forte du fait de votre virage géopolitique.
On est peut-être un peu plus... Enfin, comment ? Un taux un peu plus important que les autres du fait de notre présence internationale également.
Oui. Hein, puisque... Et du coup, c'est aussi une source d'enrichissement pour les étudiants français qui sont confrontés, y compris en étant sur place, à d'autres culture.
Tout à fait. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai oublié d'évoquer quand on dit comment on prépare la géopolitique. Il est sûr que dans un travail de groupe, quand vous mixez des populations de différentes nationalités, là aussi, vous apprenez sans le savoir.
Et donc, pour l'avenir, vous êtes confiant dans la capacité du système global français à aborder en termes de compétition pour l'enseignement, à ne pas être noyé et à relever le gant du défi chinois et des autres, parce que on a quand même pris un peu de retard au début du XXIe siècle.
Je suis plutôt inquiet, alors même s'il y a une prise de conscience, je pense que derrière il faudra des financements. Les écoles françaises ne sont pas subventionnées par l'État. Les enjeux sont considérables. Et puis je crois qu'il faudra peut-être arrêter à un moment donné l'idéologie et favoriser des stratégies de mutualisation entre établissements.
Concrètement, ça veut dire quoi, arrêter l'idéologie ?
C'est le système français, c'est l'université, c'est des grandes écoles, c'est d'autres formes. C'est plutôt un système qui doit être global, et c'est ce système qui doit aller à l'étranger. Alors, pour Grenoble, on a la chance d'avoir une marque forte Grenoble qui est connue à l'étranger. On a la force d'avoir un écosystème autour de Giant qui est là également, attire, et dans une bataille mondiale du savoir, pour attirer des chercheurs, des doctorants, du capital risque, des entreprises, des labos de recherche et des étudiants talentueux. Mais c'est ça qu'il faut faire, en sachant également que...
Donc le fait d'avoir une diversité d'offres entre le management, l'ingénieur, des métiers qui auparavant étaient très différenciés, c'est pour vous plutôt une source de richesse d'avoir une sorte de bouillon de culture un peu généraliste.
Tout à fait. Enfin, et c'est ce qui fera que de toute façon, ça permettra d'attirer des étudiants. C'est ce que également demandent les entreprises, en disant dans la confrontation des cultures, on est de l'innovation et il y a des talents partout. Il y aura également, je crois, on a parlé de l'arrivée de cette internationalisation, mais je crois également que les headtech vont bouleverser un peu le paysage de l'enseignement supérieur, avec de nouveaux acteurs qui vont peut-être imposer de nouveaux modèle avec des tarifs qui n'auront rien à voir avec avec les nôtres. Et puis nous allons avoir à financer des investissements conséquents dans le numérique. Alors numérique à la fois dans notre gestion, dans notre management, mais également dans la pédagogie. Et dans cette pédagogie, eh ben ça sera des solutions de réalité virtuelle, ça sera des solutions d'intelligence artificielle.
Et là, vous pensez que la France est un peu en retard en termes de capacité d'investissement, parce que l'État manque et que les écoles n'ont pas les moyens de le faire ?
Oui, il n'y a pas encore une, enfin comment, il n'y a pas encore de collaboration. Les collaborations ne sont pas forcément facilitées. Et je crois que c'est là où on doit apprendre à travailler ensemble. C'est se dire un peu comment. Sur certaines solutions, il y aura besoin de back-office commun, hein, pour peut-être faire le lien avec la géopolitique. Quand on fera des cours ou des interventions sur la négociation avec des Asiatiques, on sait qu'il y a l'importance du non-verbal. On pourra avoir des solutions dans l'avenir qui seront absolument fabuleuses, où avec un casque de réalité virtuelle, l'étudiant pourra s'insérer dans des conversations avec le big data. On pourra analyser en disant là vous n'avez pas été bon sur tel moment, là vous n'avez pas perçu. Il pourra voir sa fiche, il pourra retravailler, il pourra le refaire en permanence. Ces solutions, ça coûte de l'argent. Ça nécessite des équipes qui sont pluridisciplinaires, ça nécessite de l'espace, et ce sera des choses que nous devrons faire alors en commun, soit avec des universités ou avec d'autres types d'établissements d'enseignement supérieur, ou éventuellement avec des universités d'entreprise ou avec des entreprises. Mais je crois que la compétitivité des business schools ou de l'enseignement supérieur devra se faire par ce biais-là.
Merci Jean-François Fiorina pour ce tour d'horizon de la géopolitique en entreprise, en école de commerce et la compétitivité de la France sur le marché de l'enseignement supérieur.